Bonjour à chacun. Je ne sais pas si la prédication sera un chant ou pas. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager avec vous la parole de Dieu et je suis heureux de vous transmettre les salutations des frères et sœurs de l'Église baptiste de Nîmes qui m'envoient vers vous ce matin et c'est un plaisir d'être avec vous. Je vais simplement voir si ça fonctionne, c'est parfait. Nous vivons dans un monde, dans une société où les gagnants sont ceux qui en imposent, ceux qui sont plus malins que les autres, ceux qui savent trouver la faille dans le système, parfois faire fi des règles, ceux qui sont plus agressifs, moins naïfs, ceux qui se battent pour leurs idées, leurs rêves, leurs idéaux, ceux qui en veulent, ceux qui s'obstinent, qui ne se laissent pas faire. Les forts persévèrent et gagnent, alors que les faibles renoncent et perdent. Je ne vous apprends rien si je vous dis que nous vivons dans une société occidentale qui a fait du divertissement, du plaisir et des loisirs certains des objectifs suprêmes de la vie qui sont même devenus, pour beaucoup de nos concitoyens, leur raison de vivre. On vit sa semaine en ne pensant qu'au week-end. On vit sa semaine pour le week-end. On vit de plus en plus difficilement le moment présent et de plus en plus dans l'optique des prochaines vacances. Ce qui compte vraiment, ce sont les loisirs, les congés, les RTT, les voyages, la satisfaction de nos désirs et la réalisation de nos rêves. Et dans ce domaine, un slogan publicitaire bien connu semble avoir été adopté par beaucoup comme mot d'ordre. Nous poursuivons nos rêves et notre plaisir parce que nous le valons bien. C'est notre droit. C'est légitime. Nous travaillons dur toute l'année pour cela, n'est-ce pas? Ce qui compte plus que tout, c'est l'épanouissement personnel. C'est l'accomplissement de soi. Et malheur à celle ou celui qui pense ou agit autrement. En face de cette réalité, de ce constat que j'ai établi un peu à l'emporte-pièce ce matin, j'en conviens, nous avons une parole de Jésus qui, comme souvent, va à contre-courant, semble aller à contre-courant. Cette parole, c'est celle où Jésus dit qu'il faut renoncer à soi et porter sa croix pour le suivre. Cette parole de Jésus, comme beaucoup d'autres, est surprenante et sans doute même dérangeante. Dérangeante parce qu'elle fait tache au milieu du consensus général dont nous venons de parler. Dérangeante car nous ne savons finalement pas trop quoi en faire. Dans notre vie, face aux sollicitations incessantes de notre société de consommation. Comment vivre le renoncement à soi dans un monde qui ne se soucie que de l'accomplissement de soi? Et puis comment donner envie aujourd'hui à quelqu'un de suivre Jésus quand Jésus dit que pour le suivre, il faut renoncer à soi et il faut porter sa croix. Force est de constater ici qu'il y a des discours bien plus fédérateurs que celui-ci. Force est de constater que cette parole de Jésus est bien peu attrayante dans un monde qui vante sans arrêt les plaisirs et le loisir. Que faire de cette parole de Jésus? Comment la comprendre? Et puis, surtout, comment la vivre? J'ai tiré cette parole d'une série de prédications que j'ai fait à Nîmes, que je suis en train de faire à Nîmes, une série que j'ai intitulée « Et pourtant, Jésus l'a dit ». Et j'essaye de passer en revue les paroles difficiles de Jésus, les paroles exigeantes, et celles-ci en fait partie. Suivre Jésus, c'est suivre le Christ. C'est suivre son enseignement, c'est suivre son exemple, c'est marcher à sa suite. C'est tenir compte de ce qu'il dit, tenir compte de sa volonté. Et parce que Jésus l'a dit, nous ne pouvons pas faire comme s'il ne l'avait pas dit. Et pourtant, Jésus l'a dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ce matin, nous allons donc considérer cette parole. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par cette parole? Comment la comprendre pour bien la vivre? À quoi nous engage véritablement cette parole de Jésus? Qu'est-ce qu'elle ne veut pas dire? Et je vous invite à lire ensemble, si vous le voulez bien, le texte dans lequel se trouve cette parole. C'est dans l'évangile de Marc. Je lis les versets 34 à 38 du chapitre 8. Marc, chapitre 8, versets 34 à 38. Puis il appela la foule avec ses disciples et leur dit: « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, mais quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et à quoi sert-il à un être humain de gagner le monde entier s'il perd sa vie? Que donnerait un être humain en échange de sa vie? En effet, quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Un mot tout d'abord sur le contexte immédiat de ce passage, où Jésus précise en particulier ce que le suivre veut dire. Et cette précision de Jésus, il l'a fait à la suite de deux paroles notables de Pierre le disciple. La première de ces deux paroles notables de Pierre est celle quand il déclare que Jésus est le Christ, autrement dit qu'il est le Messie. Jésus vient de demander à ses disciples de lui dire ce que les gens disent de lui. Et nous allons lire le texte dans un instant. Et au verset 27, donc quelques versets avant ce passage, Jésus, nous lisons « Au dire des gens, dit Jésus, qui suis-je ?» Et puis nous avons la réponse des disciples. Certains pensent que Jésus est Jean-Baptiste. D'autres pensent qu'il est Élie le prophète. D'autres encore qu'il est un des prophètes. Et Jésus va affiner sa demande. Et il demande à ses disciples ce que eux pensent de lui. Et c'est là que Pierre prend la parole et qu'il affirme que Jésus est le Christ. Voilà le passage en question. Je lis les versets 27 à 30. « Jésus sortit avec ses disciples vers les villages de Césarée de Philippe. En chemin, il se mit à demander à ses disciples au dire des gens, « Qui suis-je ? » Ils lui dirent pour les uns Jean le baptiseur, pour d'autres Élie, pour d'autres encore l'un des prophètes. Lui leur demandait, « Et pour vous, qui suis-je ? » Pierre lui dit, « Toi, tu es le Christ. » Il les rabroua pour qu'ils ne disent rien à personne à son sujet. Jésus est en effet le Christ, le Messie. Mais qu'est-ce que cela veut dire? De quelle nature est ce Messie? De quelle nature est sa mission? Les choses doivent être précisées. Et c'est ce que Jésus va faire. Jésus précise les choses parce que les attentes de beaucoup, et en particulier de ses disciples, était erroné sur le sujet. C'est un disciple triomphant qui était attendu. C'est un Messie conquérant, guerrier, un Messie qui allait redonner sa souveraineté au peuple juif, leur redonner leur terre en chassant les Romains hors de la Palestine. Voilà le Messie que l'on attendait. On se souvient ici de la réaction de Pierre dans le jardin de Gethsémané quand les soldats romains viennent arrêter Jésus. Il tire son épée pour défendre Jésus. A-t-il pensé que l'heure du combat était enfin arrivée? Que l'heure de la délivrance messianique par l'épée du Messie était enfin arrivée? Nous nous souvenons que parmi les disciples, il y avait des zélotes qui n'attendaient que ça. Les disciples avaient besoin de comprendre la véritable nature de la mission du Messie. Déjà la véritable nature du Messie lui-même, mais aussi la véritable nature de sa mission et de sa mission de délivrance. Et c'est pourquoi Jésus en profite après cette belle confession de Pierre pour préciser les choses et annoncer ses souffrances à venir et sa mort. Il n'est pas un Messie conquérant au sens militaire. Il est un Messie souffrant. Il est venu pour subir à notre place la condamnation de nos péchés. Il est venu pour nous délivrer, non pas des Romains, mais de notre péché. Et voilà ce que Jésus dit ensuite. Il commença alors à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu'il soit tué et qu'il se relève 3 jours après. Il disait cela ouvertement, alors Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer. Mais lui se retourna, regarda ses disciples et rabroua Pierre. « Va-t'en derrière moi, Satan, lui dit-il. Tu ne penses pas comme Dieu, mais comme les humains. » Les précisions de Jésus sont loin de correspondre à ce que les disciples, représentés ici par Pierre, pouvaient penser. Il n'est d'ailleurs pas possible aux yeux de Pierre que les choses se passent ainsi. Impossible que le Messie souffre. Impossible qu'il souffre beaucoup. Impossible qu'il soit rejeté par les anciens, par les scribes, par les grands prêtres. C'est inimaginable, impossible qu'il soit tué, vaincu, battu, humilié, terrassé. C'est à des années-lumière de ce que Pierre peut imaginer concernant la nature du Messie et de sa mission. Pierre ne peut pas le concevoir. Donc Jésus doit se tromper. Il n'a pas bien compris la situation. Et Pierre se sent le devoir de reprendre Jésus, de corriger le tir, de remettre les pendules à l'heure, de remettre un peu d'ordre dans les pensées de Jésus qui, selon lui, en ont bien besoin. Et c'est ainsi qu'il prend Jésus à part et il le rabroue, dit le texte. Il lui fait la leçon. Seigneur, ce n'est pas ainsi que les choses vont se passer. Tu n'as pas encore tout à fait compris. Mais moi, je vais te dire comment ça va se passer. Seigneur, jamais tu ne souffriras de la sorte. Jamais tu ne seras rejeté par les autorités. Jamais tu ne seras mis à mort. Et le texte parallèle de Matthieu, donc le texte parallèle à Marc, dit textuellement que ces choses n'arriveront jamais à Jésus. Le voici, le texte parallèle. Dès lors, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et se réveiller le 3e jour. Pierre le prit à part et se mit à le rabrouer en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Cela ne t'arrivera jamais. Pierre n'a rien compris. Mais ce n'est pas surprenant, on aurait fait la même chose. Il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait même pas véritablement à ce moment-là à qui il le dit. Et Jésus doit le reprendre sévèrement. « Va-t'en derrière moi, Satan, » dit Jésus. Parce qu'en parlant ainsi, Pierre fait le jeu du diable. Le jeu du diable qui veut détourner Jésus de sa véritable mission. qui lui propose un chemin sans souffrance, un chemin qui ne passe pas par la croix, comme déjà il avait essayé de le faire au début quand il l'avait emmené dans le désert pour le tenter et lui promettre tout sans les souffrances, sans la croix. Et Jésus reprend sévèrement Pierre. Mais il ne s'arrête pas là. Il saisit aussi l'occasion pour enseigner. Et c'est souvent ce que fait Jésus. Il prend les occasions qui se présentent à lui comme des tremplins pour enseigner. Et c'est là que se situe notre passage. Alors j'ai fait ce petit cheminement parce que c'est vraiment important de le comprendre dans la logique de ce qui se passe. Les disciples avaient besoin de comprendre la véritable nature du Messie et de sa mission, tout comme ils avaient besoin de véritablement comprendre la nature du disciple, de ce qu'est un disciple et de sa mission. À la redéfinition du Messie correspond la redéfinition de la vie de disciple, de la vie de ceux qui le suivent. La vie du disciple, du Christ souffrant et mourant, est une vie de renoncement à soi, est une vie où il faut porter sa croix. Puis il appela la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Les deux paroles qui nous intéressent ce matin s'inscrivent dans les exigences que Jésus précise pour celle et celui qui veut le suivre, pour celle ou celui qui veut être son disciple. Suivre Jésus n'est pas à la carte, n'est pas laissé à l'appréciation du disciple. Suivre Jésus, ce n'est pas quelque chose à géométrie variable. Si tel était le cas, alors chacun ferait comme bon lui semble, et ça serait en réalité une belle pagaille. Suivre Jésus doit se faire selon ses exigences, selon sa parole, selon sa volonté. Et ce qui retient tout d'abord mon attention dans ces versets, c'est l'honnêteté du discours de Jésus. Jésus ne fait pas de publicité mensongère. Il ne dit pas une chose pour en obtenir une autre. Vous savez, il n'y a pas de texte écrit en tout petit en bas que vous découvrez seulement après avoir signé. Ça ne marche pas comme ça avec Jésus. Il annonce la couleur dès le départ. Quiconque s'engage à sa suite sait à quoi s'attendre, pour peu qu'il soit bien enseigné, bien évidemment. Il y a donc des exigences précises pour suivre Jésus, et Jésus lui-même les énonce très clairement. Dans notre texte, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Vous avez peut-être déjà entendu cette petite histoire, c'est lors du siège de Rome en 1849, le célèbre Garibaldi, le célèbre patriote italien, a fait cette déclaration qui est parvenue jusqu'à nous et qui est devenue célèbre. « Soldats, dit-il, tous nos efforts contre des forces supérieures ont été vains. Je n'ai rien à vous offrir si ce n'est la faim, la soif, la souffrance et la mort. Mais j'appelle tous ceux qui aiment leur pays à se joindre à moi. » Et ceux qui ont suivi Garibaldi ce jour-là savaient à quoi s'en tenir. Ainsi doit-il en être du disciple de Jésus. C'est en connaissance de cause qu'il doit s'engager à la suite de son maître. Et il peut le faire parce que Jésus ne fait pas miroiter autre chose que la vérité, même si cette vérité peut nous bousculer et peut-être même nous effrayer. La première des exigences mise en avant par Jésus pour celui qui veut le suivre est donc le renoncement à soi. Que veut dire renoncer à soi? Il me semble que le renoncement à soi fait partie de ces notions de la vie chrétienne qui sont très souvent mal comprises. Par renoncement à soi, beaucoup comprennent le renoncement au plaisir de la vie. Le renoncement au plaisir sous toutes ses formes. Beaucoup voient dans cette exigence de Jésus un appel à l'austérité, un appel à une vie plate et ennuyeuse. Et beaucoup sont ainsi, parfois, arrêtés dans leur intérêt des choses de Dieu, parce qu'en entendant ces paroles, ils croient comprendre que suivre Jésus, s'engager à la suite de Jésus, c'est finalement rentrer dans une vie qui ne sera faite que de restrictions, que d'abstinence et de contraintes. Mais la réalité est tout autre. La vie avec Jésus est une vie passionnante, n'est-ce pas? C'est une vie passionnante. Et en plus, Dieu veut que nous jouissions de la vie qu'il nous a donnée. Dieu prend plaisir quand nous sommes heureux. Dieu prend plaisir quand nous jouissons et profitons de tous les biens dont il nous comble. Non, renoncer à soi, ce n'est pas renoncer à tout ce qui nous fait plaisir dans la vie. Ce n'est pas vivre sans passion et sans rêve. Écoutez ces quelques paroles de l'Ecclésiaste. Il n'y a de bonheur pour l'homme qu'à manger et à boire et à faire jouir son âme du bien-être au milieu de son travail, mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant la vie, mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. On est loin de l'austérité et de l'abstinence comme règle de vie. Jouir et se réjouir de la vie est un don de Dieu. Cela vient de la main de Dieu. Si Dieu veut que nous jouissions de la vie qu'il nous donne, alors que veut dire renoncer à soi? Et j'aimerais suggérer que renoncer à soi, c'est renoncer à diriger sa vie sans Dieu. Renoncer à diriger sa vie sans Dieu, c'est accepter de laisser la parole de Dieu avoir voix au chapitre, et souvent même le dernier mot dans ma vie, en particulier dans le domaine du péché. C'est la volonté soutenue de dire non à soi, afin d'être en mesure de dire oui à Dieu. C'est en fin de compte accepter de laisser Dieu prendre les commandes de sa vie. Et vous le savez, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève se sont appropriés cette prérogative divine. Ils ont décidé de transgresser les commandements de Dieu et de prendre leur destinée dans leurs mains. Et nous pourrions dire qu'ils ont à ce moment-là coupé le cordon ombilical avec Dieu. Ils ont fait le choix de l'indépendance. En prenant la direction de leur vie en main, ils ont expulsé Dieu du poste de pilotage. Et renoncer à soi, c'est renoncer à ce droit usurpé. C'est renoncer à cette indépendance acquise par la désobéissance. C'est revenir dans une relation à Dieu où Dieu est à nouveau le maître de ma vie. En résumé, je dirais que renoncer à soi, c'est donner à Dieu, par Christ, toute la place qu'il mérite dans ma vie. C'est la première des exigences soulignées par Jésus pour celle ou celui qui veut le suivre. Mais ce n'est pas la seule. La deuxième exigence de Jésus envers ceux qui veulent le suivre, c'est qu'ils doivent porter leur croix. L'exigence du renoncement à soi est renforcée par celle d'une croix qu'il faut porter. Et si le renoncement à soi est une notion qui est souvent mal comprise, la croix qu'il faut porter n'est pas en reste de mauvaise compréhension. On entend parfois dire de la maladie, de la belle-mère ou des épreuves de la vie, c'est ma croix. C'est la croix que je dois porter pour le Seigneur. Pour trop de chrétiens, porter sa croix signifie assumer, faire face aux épreuves de la vie et aux difficultés de la vie. C'est souvent ce qu'on pense peut-être ou même ce qu'on entend dire. Mais mes amis, pas besoin d'être chrétien pour cela. Pas besoin d'être chrétien pour devoir faire face aux épreuves de la vie et assumer les difficultés de la vie. Ça, c'est le lot de l'humanité tout entière. J'aimerais suggérer que porter sa croix, c'est accepter à notre niveau, et toute proportion gardée, de souffrir quelque chose des souffrances de Jésus. Je m'explique. C'est accepter. Et quand je dis accepter, je ne dis pas rechercher, je dis accepter. C'est accepter d'être rejeté pour lui, quand ça arrive, parce qu'il l'a été pour nous. C'est accepter, pas rechercher, d'être maltraité pour lui, parce qu'il l'a été pour nous. C'est accepter, pas rechercher, de mourir pour lui, parce qu'il est mort pour nous. C'est cela, porter sa croix. Quand Jésus prononce les paroles de notre texte, la sentence de mort par la croix dans la Palestine occupée par les Romains était malheureusement une réalité quasi quotidienne. Ceux à qui Marc écrit cet évangile, on est une trentaine d'années après la mort de Jésus, dans les années 65-66 après Jésus-Christ. Ces chrétiens-là à qui il écrit sont persécutés. Et la croix est devenue le symbole des souffrances et de la mort de Jésus. Pour les auditeurs de Jésus, comme pour les destinataires de l'évangile de Marc, il est clair que Jésus parle ici de souffrance et de mort quand il dit qu'il faut porter sa croix. Une autre compréhension ne colle pas avec ce contexte. Chers amis, c'est peut-être un programme, une exigence qui peut nous faire peur, qui peut nous faire trembler, qui peut peut-être même nous terroriser. Ne soyons pas surpris si nous trouvons au fond de notre cœur la crainte de ces choses, parce que personne n'est suffisamment fort par lui-même pour faire face à sa croix. Mais soyons assurés que Dieu ne manquera pas, ne manque pas et ne manquera jamais de nous soutenir et de soutenir les siens dans l'épreuve, même et surtout quand il nous faut porter notre croix. Il a été déjà beaucoup question de promesses ce matin et j'aimerais en rappeler deux autres, j'aurais pu en choisir beaucoup d'autres. Elles sont du prophète Ésaïe. « Ne crains rien car je suis avec toi. » Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Et puis, un autre texte, toujours du prophète Ésaïe, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, si tu dois porter ta croix, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ces promesses et bien d'autres sont pour nous si nous sommes un enfant de Dieu. Et cela, quelles que soient les circonstances de notre vie, même quand il nous faut porter notre croix. Et Jésus demande donc à ceux qui veulent le suivre, non seulement de capituler la direction de leur vie, mais aussi d'être prêts à littéralement donner leur vie pour la foi en Jésus. Alors, comprenons bien que tous les chrétiens ne sont pas appelés à être des martyrs de la foi, mais que tous sont appelés à être prêts à le devenir. La nuance est importante, mais elle existe. Et il peut arriver parfois que l'ultime décision qu'un chrétien doive prendre, c'est de renoncer à sa vie plutôt que de renoncer à Christ. Vous savez ce que je trouve beau dans ce texte, dans cette double demande de Jésus ? C'est que Jésus ne demande rien à ses disciples qu'il ne s'applique à lui d'abord. Alors qu'il était sur terre, il a non seulement complètement soumis sa volonté à celle de son Père, mais il a aussi choisi la croix par amour pour nous. Et il nous laisse d'ailleurs un exemple à suivre. Ce texte de Pierre, que je vais lire en partie, « Car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement, et les souffrances liées à la foi sont des souffrances injustes. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes ? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. C'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. C'est à cela aussi que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. » La suite du texte est importante, mais je ne la lis pas. La vie chrétienne répond à la logique de l'imitation. Le disciple est celui qui imite son maître. Et la cerise sur le gâteau, si je puis m'exprimer ainsi, c'est qu'il y a un grand réconfort, une grande espérance attachée à cette logique de marcher à la suite, de marcher là où Jésus a marché. Certes, nous devons porter son opprobre. Oui, nous devons porter sa croix. Mais après la souffrance viendra la gloire. Après avoir souffert, Jésus a été glorifié. Et ainsi en sera-t-il de celui qui porte sa croix pour suivre le Christ. Et l'apôtre Paul résume tout cela merveilleusement bien dans son épître aux Romains. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu et co-héritier du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Pour être glorifié avec le Christ, je dois marcher à sa suite. Je dois porter ma croix. Et parfois, sur ce chemin, marcher sur le chemin du rejet, du mépris, de l'incompréhension, de la honte, de l'humiliation parfois, et parfois, pour certains même, de la mort. Il y a des temps et des endroits où ces paroles résonnent d'un réalisme saisissant. Pour nous, en France, c'est un peu abstrait quand même, hein, mourir pour sa foi. Mais pour beaucoup de nos frères et sœurs, dans la foi, dans le monde, c'est une réalité quotidienne. Et je suis persuadé qu'un texte comme celui que nous avons médité ce matin trouve un écho tout particulier auprès de nos frères et sœurs qui souffrent à cause de leur foi et qui voient certains de leurs bien-aimés être mis à mort pour cela. Les lecteurs de l'évangile de Marc vivaient la persécution. Et il était indispensable qu'ils comprennent la réalité de la croix pour le disciple de Jésus. Il était indispensable qu'ils soient préparés à prendre la décision ultime de choisir Jésus plutôt que leur vie, si cela devait être un choix à faire. Et même si nous ne connaissons pas de persécution sévère en France, il n'est pas inutile pour nous de réfléchir à tout cela. Déjà parce que nous ne savons pas de quoi demain sera fait, et puis parce que c'est une exigence du Seigneur et il est bon que nous y réfléchissions. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur notre texte. Vous avez vu que je n'ai médité que les deux premiers versets réellement, et que la suite apporterait encore bien des choses. Il est question de perdre sa vie pour la gagner ou de la sauver pour la perdre, de la futilité de gagner le monde entier si je perds ma vie, de la honte que le Seigneur aura de moi si j'ai honte de lui, etc. Tout ça est bien évidemment attaché, et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je dois maintenant terminer. Les deux paroles que nous venons de considérer sont exigeantes, j'en suis tout à fait conscient. Elles sont exigeantes, mais elles sont de la bouche de Jésus. Elles sont exigeantes, mais elles sont pleines de promesses. Promesses de vie pour celui qui suit Jésus, qui marche à sa suite et qui le fait selon les exigences de son maître. Promesses de vie pour celui qui renonce à lui-même, pour le Seigneur, qui renonce au trône de sa vie, pour laisser le Seigneur s'asseoir dessus. Promesse de vie pour celui qui porte sa croix, pour le Seigneur, et qui un jour entrera dans la gloire de son Maître. Peut-être n'êtes-vous pas encore décidé à suivre Jésus. Peut-être même qu'après le message de ce matin, vous vous posez de sérieuses questions. Peut-être êtes-vous déjà disciple de Jésus, mais vous n'aviez jamais vraiment mesuré les exigences de l'appel de ce chemin-là. Permettez-moi de vous dire que si ce chemin est exigeant, et il l'est, c'est néanmoins le chemin de la vie. C'est le chemin de la vie éternelle. C'est le chemin de la vraie vie ici-bas. Et pourquoi est-ce que je dis de la vraie vie ici-bas ? Parce que la vraie vie ici-bas, c'est de vivre dans la communion restaurée avec Dieu. Cette communion perdue dans le jardin d'Éden. C'est ça la vraie vie. C'est d'être dans la relation qui devrait toujours être celle de tout être humain avec son Dieu et son Créateur. Chers amis, si le chemin est exigeant et il est, le Seigneur est avec nous. Et il est avec nous tous les jours. Si le chemin est exigeant, et il l'est, le Seigneur nous a laissé sa parole, il nous a laissé ses promesses, il nous a laissé le secours de son esprit. Si le chemin est exigeant, et il l'est, nous pouvons néanmoins toujours compter sur le Seigneur qui donne le vouloir et le faire, et qui donne si souvent au-delà de ce que nous demandons et pensons. Si le chemin est exigeant, il l'est, le Seigneur donne toujours ce qu'il ordonne, toujours. Et nous pouvons nous attendre à lui avec confiance. Il marche avec nous sur ce chemin exigeant. Il nous précède, il nous accompagne, il nous entoure par devant et par derrière. Il nous donne son exemple, il nous offre sa grâce. Pour pouvoir nous relever quand nous chutons, pour pouvoir reprendre la route quand nous nous sommes arrêtés sur le bas-côté. Oui, c'est un chemin exigeant, mais le Seigneur est avec nous. Amen.